C'est parti pour la compagnie des auteurs, opérée comme chaque jour par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amar, Gauthier Amiel, à la réalisation Lise Combe, à la technique Pierre Faucillon.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernière étape de notre parcours en Welbecky, à l'occasion de la sortie d'un cahier de Lerne consacré à l'auteur des particules élémentaires. C'est en 1994 que les lecteurs de romans découvrent le nom de Michel Houellebecq sur la couverture d'Extension du domaine de la lutte. Les amateurs de poésie le connaissaient déjà depuis la parution de La poursuite du bonheur 3 ans plus tôt, mais c'est avec Les particules élémentaires en 1998 que son audience va s'élargir radicalement. Et tous ces romans depuis ont été des événements, bien souvent teintés de polémiques, comme avec Plateforme en 2001 ou Soumission en 2015. Ce panorama de la vie et de l'œuvre, nous l'avons fait lundi dernier, c'était avec Agathe Novak Le Chevalier. Mardi, c'est un éditeur puis un écrivain journaliste qui se sont succédés à ce micro. Raphaël Sorin nous a parlé du parcours de Houellebecq dans le monde de l'édition. Il en a profité pour régler quelques comptes. Et Jacques Henrich nous a dit pourquoi il le voyait comme quelqu'un de solitaire, voire d'isolé. Hier enfin, avec l'universitaire Bruno Viard, nous avons traqué les paradoxes de Houellebecq et raconté pourquoi le moment 68 est fondateur dans sa manière de voir le monde. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une thématique bien désenchantée en seconde partie de cette émission, celle du rapport de l'auteur de Plateforme avec la ville, ses zones urbaines, ses zones périurbaines, ses parkings, ses supermarchés. Ce sera avec Clémentin Rachet qui a publié un livre sur le sujet aux éditions B2. Mais avant cela, un retour aux sources, c'est-à-dire à la poésie de Michel Houellebecq avec l'écrivain Thomas Clerc. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Bonjour Thomas Clerc.
Bonjour.
Tout comme Clémentin Rachet qu'on retrouvera tout à l'heure, vous vous intéressez aux questions d'espace, hein, que ce soit dans votre livre « Paris, musée du 21e siècle, le 10e arrondissement » qui a été publié en 2007 chez Gallimard, tout comme dans votre roman « Intérieur » sorti en 2013 où vous livrez une sorte d'autoportrait à travers un écrivain qui décrit pièce par pièce le contenu de son appartement. A priori, c'est un projet aux antipodes du roman houellebecquien, du roman réaliste. Vous êtes là plutôt dans quelque chose de formaliste et néanmoins, vous vous intéressez à Houellebecq.
Ah oui, on peut avoir, disons, des goûts critiques qui ne correspondent pas nécessairement à ce que l'on produit littérairement, hein. Heureusement d'ailleurs, mon propre travail d'écrivain n'a rien à voir avec celui de Michel Houellebecq. Houellebecq est un écrivain que j'aime bien, que j'ai défendu lorsque je faisais de la critique littéraire, que je défends toujours d'ailleurs. Mais peut être intéressant souvent de penser qu'on a des sensibilités diverses en nous, et quand je travaille sur la question de l'espace, ce n'est pas du tout dans une perspective romanesque, en fait. Intérieur est une sorte de documentaire subjectif sur mon propre appartement, je dirais. Comme le 10e arrondissement était une promenade où j'essayais de... Enfin, où j'ai décrit la totalité des rues de cet arrondissement. J'ai d'ailleurs un projet de poursuite de description globale de Paris, hein. Donc j'ai un rapport à la ville qui est beaucoup plus un rapport, je dirais, individuel, de flâneur subjectif.
Mais Michel Houellebecq pourrait avoir un regard, lui, critique sur justement ce formalisme, et d'ailleurs on va le voir, c'est justement l'absence de formalisme que vous soulignez chez Michel Houellebecq en faisant quelque chose de positif.
C'est-à-dire dire que cette question du formalisme, moi je suis pseudo-formaliste, si on peut dire. C'est-à-dire que bon, moi je descendrais plutôt de Georges Perec si on voulait absolument à tout
et
prix
Houellebecq
créer des filiations.
Comparé à Georges Perec d'ailleurs.
Oui, alors Houellebecq a une admiration relative pour Perec. Il aime bien notamment, je pense, il aime bien les choses, il aime bien toute la dimension sociologique, encore que par provocation, il prétend que Jean-Louis Curtis est un écrivain supérieur à Georges Perec, ce qui est évidemment intenable d'un point de vue littéraire, mais enfin bon, c'est toujours assez amusant. Disons que chez Houellebecq, il y a évidemment une dimension sociologique très importante et qui a fait l'une des raisons de son succès. Hein. Houellebecq peut être comparé, toute proportion gardée, à une sorte de Balzac du 21e siècle, parce qu'il a ce regard très, très impitoyable finalement sur la vie sociale. De même que Perec avait un certain regard impitoyable dans les choses.
Donc ce serait le Perec des choses et pas le Perec de la vie mode d'emploi.
Voilà, absolument. Hein. Si on devait les rapprocher, puisque finalement ils riment ensemble, si on peut dire, Houellebecq et Perec, ça serait sur la dimension sociologique, mais évidemment avec des partis pris littéraires absolument aux antipodes. Hein. Mais on ne peut pas dire effectivement que Houellebecq soit un formaliste, ça c'est certain, bien que dans sa poésie, il faut quand même le remarquer, il est très attaché à la forme fixe, hein, c'est-à-dire au fond au vers mesuré, au vers alexandrin, au vers de 12 syllabes, aux formes finalement immédiatement repérables comme étant de la poésie. Donc, il faut faire attention. Houellebecq est un écrivain qui n'a pas véritablement, disons, de travail formaliste dans son roman, enfin dans son art romanesque, mais dans sa poésie, au contraire, il contrebalance finalement cet aspect, disons, sociologique par un culte d'une forme, disons, néoclassique, je dirais.
Donc vous aimez la poésie de Michel Houellebecq, Thomas Clair, et cela depuis longtemps. Je voudrais vous faire écouter le document qui le prouve. Il date du 5 septembre 2001, c'était au cours de l'émission La Suite dans les idées.
Thomas Clair, si on pouvait poursuivre sur le,
d'accord,
le livre.
Non, mais c'est quand même important de dire
c'est
qu'on,
le livre.
On peut quand même dire ce qu'on
non,
veut.
C'est le livre. Enfin...
Si on veut. Bon, alors sur le livre, bon, moi je trouve qu'évidemment c'est un très bon roman parce que Michel Houellebecq met en scène un personnage qui est lui-même contradictoire, c'est-à-dire un personnage qui effectivement appartient à cette, disons, petite bourgeoisie qui effectivement a des côtés absolument sordides, effectivement, je le reconnais, mais aussi a des côtés touchants. Et ce qui est touchant dans le livre, c'est que précisément le romancier met en scène un personnage qui est à la fois, tourné en dérision. Je cite par exemple les propos qu'il tient à propos de sa propre entreprise. Je jetais alors les bases d'une théorie plus compliquée et plus douteuse, c'est-à-dire à propos de sa propre idée de création de villages de vacances sexuelles. On ne peut pas prendre complètement au sérieux ces thèses qui sont toujours immédiates, parce que il est absurde de voir que lorsqu'il développe l'idée de village de vacances sexuelles planétaires, ou lorsqu'il dit que par exemple en Occident on ne baisse plus, enfin qu'est-ce que ça veut dire, ce sont des thèses qui sont comiques ou qui ne sont
pas
forcément
bêtise vous frappe tellement que vous voulez pas croire que c'est au premier degré.
Ah, on se tapait dessus quand même sur France Culture à cette époque là
J'étais assez peu clair. D'ailleurs, je ressemblais assez peu à mon nom en me réécoutant. Là, je me trouve assez confus.
C'était la passion, parce
oui,
que vous vouliez
oui,
absolument défendre
Michel. Oui, j'étais
Michel
un peu le jeune critique qui, effectivement, cherchait sans doute à légitimer un écrivain qui, quand même, est un écrivain qui n'est pas consensuel, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, même si maintenant il est en voie de classicisation, il est en voie de légitimation, évidemment, il est même largement légitimé. Mais à l'époque, c'était vraiment l'époque où les gens se déchiraient un petit peu sur Michel Houellebecq. C'est toujours un auteur qui, de toute façon, est un déclencheur de discours, pour reprendre l'expression de Emmanuel Carrère dans les Cahiers de Lerne, un très beau texte de Carrère. Houellebecq est un déclencheur de discours, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vraiment suscite une polémique à la mesure finalement des thèses plus ou moins sérieuses qu'il développe dans ses livres. Et je maintiens encore l'idée que ces thèses sont à la fois sérieuses et pas sérieuses. Dans Soumission, l'idée évidemment qu'un parti musulman va prendre le pouvoir en France est délirante. En même temps, il joue sur un fantasme de type, à la fois islamophobe et conservateur, qui est évidemment partagé par une grande partie de la population. Donc, d'une certaine façon, il joue avec des choses, si vous voulez, qui sont sérieuses, mais il les pousse à un point, et c'est là son art de romancier, il les pousse à un point qui fait qu'on ne peut pas véritablement les prendre pour argent comptant. Et c'est là, évidemment, dans cette zone d'indécision que se situe son talent.
Et c'est précisément ce qui crée la polémique.
Absolument.
Parce qu'en fait, on ne peut pas répondre à la question, est-ce que Michel Houellebecq est sérieux ? dans ses romans et lui-même ne répond pas très précisément à cette question-là.
Oui, il a tendance parfois, effectivement, à ne pas forcément assumer publiquement ce qu'il pose dans ses livres. Hein. Mais dans Soumission, par exemple, il a vu quelque chose de très, très étonnant. C'est qu'il pose comme principe que la France a un désir d'autorité. Alors ça, c'est une thèse conservatrice. Et ce désir d'autorité ne va pas être comblé par le Front National, mais va être comblé par un parti islamique modéré. C'est-à-dire, au fond, Houellebecq a une vision conservatrice de l'islam. Il dit que l'islam, finalement, est une religion conservatrice. Donc, cette religion pourrait très bien répondre à la demande autoritaire d'une partie de la population française. Le coup de génie est là. C'est-à-dire, il n'est pas dans l'idée que le Front National va prendre le pouvoir, il est dans l'idée qu'un parti musulman prendrait le pouvoir. C'est évidemment délirant, c'est-à-dire au sens où c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec la réalité, mais qui est juste au niveau du fantasme. Et c'est là, évidemment, que Houellebecq est fort. C'est absolument ça qu'il faut voir, c'est qu'il joue sur les fantasmes d'une certaine partie de la population pour, justement, produire une sorte de roman de science-fiction, si on peut dire, qui a un rapport avec notre réalité.
Donc vous défendiez hein, dès 2001 Michel Houellebecq, on vient de l'entendre, on a évidemment pu en diffuser qu'un petit extrait. Ce que vous défendiez, seul contre quatre, c'était l'idée qu'au fond, Michel Houellebecq parle de son époque et que son nihilisme n'est pas exactement un nihilisme négatif, mais qu'il s'agit d'un nihilisme positif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendiez par là ?
Nihilisme positif, je ne sais pas si cela s'applique véritablement à Houellebecq, au sens où c'est une expression que je reprendrai pour mon propre compte, mais je dirais que le nihilisme de Houellebecq répond finalement à celui de notre époque. En ce sens, il y a une convergence entre Houellebecq et l'esprit de notre époque. Hein, l'esprit d'une époque qui, finalement, est déboussolée, se cherche, et donc est prête à trouver des réponses qui sont pas forcément justes, qui sont même bien souvent fausses. Et Houellebecq est quand même un symptôme, un écrivain symptôme, je dirais. Il n'est pas là par hasard. Hein, il a quand même mis à genoux pratiquement toute la littérature française, de par son regard sociologique, qui, encore une fois, n'est pas exempt de critique, hein, et n'est pas exempt, finalement, loin de là, de folie, si on peut dire, d'une certaine manière. Mais il est quand même à la place qu'il occupe n'est pas du tout un hasard, parce que ce nihilisme, finalement, capte bien l'ambiance assez délétère de notre pays depuis un certain temps, finalement.
Nous avions dit que nous parlerions de poésie.
Oui. Je ne jalouse pas ces pompeux imbéciles qui s'extasient devant le terrier d'un lapin, car la nature est laide, ennuyeuse et hostile. Elle n'a aucun message à transmettre aux humains. Il est doux, au volant d'une puissante Mercedes, de traverser des lieux solitaires et grandioses, manœuvrant habilement le levier de vitesse, on domine les monts, les rivières et les choses. Les forêts, toutes proches, glissent sous le soleil et semblent refléter d'anciennes connaissances. Au fond de leurs vallées, on pressent des merveilles. Au bout de quelques heures, on est mis en confiance, on descend de voiture et les ennuis commencent. On trébuche au milieu d'un fouillis répugnant, d'un univers abject et dépourvu de sens, fait de pierres et de ronces, de mouches et de serpents. On regrette les parkings et les vapeurs d'essence, l'éclat serein et doux des comptoirs de nickel. Il est trop tard. Il fait trop froid. La nuit commence. La forêt vous étreint dans son rêve cruel.
La compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Michel Houellebecq avec Thomas Clair. Vous avez reconnu évidemment ce poème de Michel Houellebecq lu par Jean-Luc De Battice. Est-ce que vous diriez que la manière dont il le lit reflète la façon dont vous comprenez et entendez ce poème ?
C'est difficile à dire. Moi j'aime bien quand les auteurs lisent leurs propres poèmes. C'est un poème évidemment, je dirais post-baudelairien, donc enfin au sens où il joue la supériorité de la ville sur la nature. Et donc là, on voit que Houellebecq est dans une tradition, disons, 19e-iste. Et donc la lecture est facilitée, hein, d'ailleurs, par à la fois par la simplicité du thème, je dirais, et par cette forme fixe dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette forme qui vous permet de lire le poème de manière fluide. Il y a un côté fluide dans la poésie de Houellebecq qui peut-être en facilite la lecture, puisque ce n'est pas une poésie qui travaille véritablement sur ce qu'on appelait autrefois le signifiant. C'est une poésie essentiellement rhétorique. c'est-à-dire une poésie qui est une poésie qui a été condamnée par la modernité, hein, d'une certaine manière. C'est là que, évidemment, Houellebecq est un écrivain que d'aucun juge régressif, réactionnaire, mais que l'on peut apprécier en tant qu'il replace la question du sujet lyrique au sein de la poésie.
Et pour vous, ce n'est pas être réactionnaire que de rechercher dans des formes du siècle passé, voire d'il y a deux siècles, la poésie d'aujourd'hui?
Non, parce que nous ne sommes plus à une époque, je pense, où on peut penser en termes d'une espèce de, comment dire, de progrès historique des formes. Nous sommes dans une époque finalement beaucoup plus ouverte sur un plan stylistique, et on peut dire d'une certaine manière que l'intérêt de Houellebecq, c'est justement d'avoir... Il a redonné une place à des sentiments finalement exprimés de manière extrêmement simple, là où une certaine poésie hyper formaliste avait, à mon avis, quelque peu égaré le sujet et donc le lecteur. Mais on peut aimer encore une fois des choses beaucoup plus sophistiquées du point de vue poétique et en même temps aimer la poésie de Michel Houellebecq, hein, c'est mon cas. Je ne vois pas du tout pourquoi on devrait condamner finalement une poésie qui, au contraire, manifeste une sensibilité, voilà, une sorte de compassion mêlée d'ironie, où l'on retrouve vraiment des accents baudelairiens. Et ce n'est pas une régression, c'est une remise en jeu finalement de la notion de poésie lyrique. Oui.
Et puis c'est une poésie pour tous.
Absolument, oui, ça c'est aussi un aspect très important, c'est que il y a un aspect, je dirais, presque populaire, évidemment au bon sens du terme, dans la poésie de Houellebecq. C'est une poésie accessible, c'est une poésie dont chacun peut s'emparer, qui rappelle par certains moments aussi la chanson.
Parce que c'est une poésie du quotidien.
Oui, parce que c'est une poésie qui va relativement droit au but, je dirais. Encore une fois, c'est une poésie rhétorique au bon sens du terme, au sens où la rhétorique est un art du bien-dire et que la rhétorique permet finalement l'expression, même parfois un peu conventionnelle, mais des sentiments, sans que ce soit jamais mièvre ou niais, hein, puisqu'il y a évidemment une noirceur, une sensibilité au fond très, très immédiate dans la poésie de Houellebecq.
Et puis peut-être est-ce aussi une poésie populaire, entre guillemets, parce que c'est une poésie qui raconte quelque chose, c'est une poésie de la narration.
Oui, c'est une poésie de la narration, oui, c'est très important ça, effectivement. La narration, encore une fois, avait été aussi discréditée dans les théories modernes de la poésie. Au fond, hein, Houellebecq refuse d'écrire sous l'œil d'une modernité qui a ses propres diktats. Hein, il va partir finalement de son propre rapport au monde, qui est un rapport souffrant, qui est un rapport cynique au sens presque philosophique du terme. Et du coup, il va prendre la poésie comme le matériau le plus simple pour pouvoir exprimer cette dimension. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à écrire sous l'œil de la modernité, mais il va simplement tenter d'utiliser la poésie comme une sorte de message qui, après tout, est une vocation première de la poésie.
Alors, comme vous aimez quand la poésie est lue par l'auteur, eh bien, Thomas Clerc, vos désirs sont des ordres.
Les fantômes avaient lieu de leurs mains délétères, recouvrant peu à peu la surface de la terre. Les souvenirs glissaient dans les yeux mal crevés, qui traversaient la nuit, fantassins énervés. Les sapins sont pour les serpents, les autoroutes pour l'homme. Le monde est plat, interminable, vient en envol le cormoran. Un instant large, hostile, où tout s'agite et bouge, sur les balcons du ciel se tord une nuit rouge, soutien-gorge du vide, lingerie du néant, où sont les corps en vie qui s'agitaient dedans. Ils sont partis vaquer dans des prairies malsaines, dans des trous remplis d'eau, encerclés de fougères, et la nuit est tombée, doucement sur la plaine. Le ciel ne se souvient, ni la nuit, ni l'hiver. L'arc aboli de tristesse est lancé, dans une lutte imperceptible, ultime, se raffermit conjointement, minime, les dés sont à demi lancés.
Claire.
Ah, je suis très convaincu, oui, bien sûr. sent que voilà, il y a là une fusion, on pourrait dire, entre la voix de Houellebecq, cette voix un peu neutre, et ce poème finalement très très beau et très simple. Hein, les dés sont à demi lancés. Bon voilà, il a des formules comme ça extrêmement qui parlent à tout le monde, de manière très belle dans leur dimension aussi un peu cliché aussi. Hein. C'est quelqu'un évidemment qui n'a pas peur des clichés, Houellebecq. C'est ça sa grande force.
Le cliché est beau.
Oui, le cliché est beau absolument. Mais là où toute la tradition moderniste et avant-gardiste a condamné le cliché, hein, c'est là évidemment qu'il est en rupture complète. Houellebecq est un ovni dans le monde littéraire à partir des années 90, puis il est en rupture complète avec les canons finalement littéraires globaux ou généraux de l'avant-garde et du formalisme. Tout à coup, qui avait quand même entraîné d'une certaine manière une relative séparation entre le grand public finalement et la littérature. Hein. Houellebecq tout de suite se place presque hors du champ littéraire à partir du moment où ses références ne sont pas du tout les références classiques des écrivains, je dirais, pour écrivains. Et c'est là évidemment qu'il introduit une rupture très très forte et dans sa poésie et dans son art romanesque.
Ses poèmes ont été mis en musique par plusieurs personnes. Lui-même l'a chanté, Jean-Louis Aubert les a chantés, Carla Bruni les a chantés aussi. Il y a une raison pour cela, d'après vous ?
Ben, peut-être justement cette proximité entre la chanson et la poésie, hein, qui est une proximité d'origine aussi. C'est assez important dans les cahiers de Lerne. Houellebecq dit que la chanson n'est pas une source d'inspiration première, mais il s'intéresse beaucoup à la chanson, notamment à la chanson française. Et je crois qu'il y a évidemment aussi des liens entre cette chanson française qui recèle des trésors stylistiques insoupçonnés quand on l'écoute bien. Finalement, il dit qu'il peut y avoir une poésie dans des chansons de chanteurs a priori un peu ringards, parfois comme Jean Ferrat ou Michel Delpech. Et puis il va trouver justement une poésie. Ce qui est très beau chez Houellebecq, c'est qu'il va trouver une poésie là où justement elle n'apparaît pas nécessairement, ou alors elle apparaît sous une forme un petit peu outrancière dans la chanson populaire. Et donc il va peut-être essayer dans sa poésie d'utiliser, de trouver une inspiration, au sens où il va y avoir une sorte de poésie comme ça extrêmement inattendue finalement et en même temps très simple, encore une fois.
Et pourtant il y a quelque chose de l'ordre du mal, quelque chose de très dur dans la poésie de Houellebecq. Vous parlez de l'intelligence du mal, Thomas Clair, chez Michel Houellebecq.
Oui, alors c'est ce qui les différencie bien sûr de la chanson populaire, qui elle est évidemment généralement, bon, qui peut être mélancolique, mais qui ne porte pas en elle de négatif. Bon, ben, la force de Houellebecq, bien sûr, c'est aussi d'écrire à partir de ce qu'on pourrait appeler le ressentiment, finalement. Hein, alors encore une fois, et non pas le ressenti, comme aujourd'hui le mot ressenti, je ne sais pas si vous avez remarqué, est utilisé par nos contemporains. On se demande pourquoi ils n'utilisent pas le mot sentiment. Il pourrait aussi utiliser le mot ressentiment. C'est un mot que là, Houellebecq, finalement, utiliserait très, très volontiers, je pense. Il y a, oui, une intelligence du mal, une conscience de l'homme souffrant qui est à l'œuvre dans son art poétique et romanesque, non sans complaisance parfois aussi. Hein. Il y a aussi des limites, évidemment, à cette position. Je ne suis pas... j'aime Houellebecq, mais je ne suis pas,
Houellebecq-olâtre.
Voilà, Houellebecq-olâtre, dans la mesure où il a une position de principe nihiliste qui personnellement me gêne et avec laquelle je suis en désaccord total, notamment dans mon travail littéraire, qui, moi, se rapproche plutôt d'une recherche, justement, je dirais presque de la joie. Donc, chez lui, il y a une position de principe. Si vous voulez, c'est un univers extrêmement cohérent. Hein, finalement, la force de Houellebecq, c'est un univers très cohérent, très homogène, une sorte de mélancolie dépressive qui coïncide parfaitement, encore une fois, avec l'image générale de notre monde. Et son succès le confirme amplement.
Et Baudrillard vous permet d'analyser ce rapport au pessimisme, ce rapport au mal de Houellebecq. C'est en tout cas ce que vous faites dans cet article du Cahier de Lerne.
Oui, il y a une sorte de... finalement, Houellebecq est dans un premier degré qui nous paraît rafraîchissant, si je puis dire, à partir du moment où il a rompu avec les codes de, justement, d'une culture trop au second degré, d'une culture finalement autosatisfaite.
Les tenants du second degré sont au fond les vrais nihilistes.
Peut-être, oui, peut-être. C'est dans ce sens que je parlais peut-être effectivement, vous disiez tout à l'heure, un nihilisme positif. Je n'irai pas jusque là, mais à partir du moment où il croit quand même en la poésie, finalement, puisqu'il écrit de la poésie, il écrit de la littérature. Pour moi, le nihilisme d'un écrivain n'est jamais total, si vous voulez. Aucun écrivain n'est complètement typiquement un nihiliste. Un nihiliste, c'est quelqu'un qui pose des bombes et qui veut vous détruire. Un écrivain, il y a finalement en lui, même s'il est parfaitement pessimiste, même s'il est nihiliste, il ne l'est pas complètement, puisqu'il place sa foi quand même dans la littérature. Et Houellebecq, quoi qu'on puisse dire de lui, au bout du compte, c'est un écrivain. Donc quelqu'un qui pense que l'écriture est un acte finalement plus fort que tout. Même s'il ne le formulera jamais ainsi, bien sûr. Il dira au contraire que la littérature ne sauve pas, etc., etc. Mais c'est une position, on pourrait dire, de mauvaise foi, mais qui, au sens où l'écrivain écrit précisément pour justement surmonter ce nihilisme.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup Thomas Clerc. Je rappelle que votre recueil de poésie intitulé « Poésy » paraît dans la collection L'Arbalète chez Gallimard et que votre livre intérieur est désormais disponible en folio. Vous restez avec nous dans un instant. Nous allons parler de la ville dans l'œuvre de Michel Houellebecq avec l'architecte Clémentin Rachet. Mais juste avant cela, c'est Bernard Géniès de l'Obs qui nous fait le plaisir de sa visite. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Et vous venez nous parler de deux futures expositions, futures mais dans un futur tout de même proche, qui vont se tenir au Louvre et que l'on doit à un collectionneur de 54 ans, Thomas Kaplan.
Oui, c'est un collectionneur américain qui a entrepris depuis à peu près une dizaine d'années un peu une mission impossible, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'œuvre de Rembrandt et il ne se contente pas de la regarder dans les musées. Il se dit, j'ai de l'argent, je vais en acheter. Ce qui n'est pas facile parce que...
Non, c'est pas facile, mais en même temps,
quelques...
c'est vrai qu'on aimerait tous pouvoir faire ça, de ne pas se contenter de regarder Rembrandt dans les musées.
Oui, lui, il le fait pas mal, c'est-à-dire, il faut au moins lui reconnaître ce mérite, c'est qu'il les regarde avant.
Il les regarde bien, d'ailleurs.
Il les regarde très bien, et un conservateur du Louvre nous disait, d'ailleurs, qu'il avait entendu raconter sa vision d'un tableau de Rembrandt qui est à l'Ermitage en Russie, au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, et il disait, il avait été assez bluffé en disant, c'est quelqu'un qui, visiblement, a appris à connaître et qui maintenant connaît très bien Rembrandt.
Donc, d'ailleurs, il est même capable de repérer un Rembrandt alors qu'il n'a pas été authentifié encore par des commissaires.
Alors,
des
le problème de Rembrandt, c'est qu'aujourd'hui, en effet, depuis une vingtaine d'années, il y a une association, enfin un groupe de chercheurs et d'historiens de l'art qui a entrepris de scanner, si on peut dire, d'étudier tous les Rembrandts. Parce qu'il y en avait un paquet, hein, il y en avait beaucoup. Il y a 50 ans, il y avait 800. Après les études de ces spécialistes, aujourd'hui, voilà, il y en avait, c'est un peu comme Corot, de son vivant, il y avait plus de faux que d'authentiques. Et là, en fait, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un corpus de 300. Le petit problème pour un collectionneur comme Kaplan, c'est que beaucoup, évidemment, sont dans les musées, il y en a à peu près une quarantaine en main privée. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup étudié, c'est vrai que dans les 10 Rembrandts qu'il a achetés, il y en a deux qui posaient des problèmes d'attribution. Aujourd'hui, quand on dit Rembrandt, il y a 40 spécialistes qui arrivent en disant comment, quoi, qui regardent. Lui, il dit... Bon, c'est le cas de beaucoup d'amateurs qui, quelquefois, peuvent aussi se tromper. Il dit, celui-là, c'est sûr, c'est un Rembrandt. Et dans les deux cas où il a, en effet, précédé l'avis des spécialistes, il s'est avéré, en effet, qu'il avait vu assez juste. En même temps, ce sont deux Rembrandts qu'il a achetés. Enfin, il les a achetés, il a fait à Paris, quoi. Donc, il faut reconnaître, en tout cas, qu'il a un œil qui est devenu expert, quoi.
Donc, vous l'avez rencontré, vous en faites le portrait dans l'Obs qui paraît aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un personnage qui a des convictions, hein. Mais alors, il s'intéresse aussi bien à la sauvegarde des serpents en Floride que des félins, des grands félins en Afrique.
Les serpents indigo.
Serpent indigo, j'avais oublié son nom. Alors, c'est un grand serpent, en plus, je crois, qui est en Floride. Moi, j'avoue, j'aime pas trop les serpents. Mais, donc, lui, ça l'intéresse. Donc, il sauve l'indigo. Sauvant l'indigo. En plus, c'est un beau nom pour quelqu'un qui s'intéresse à la peinture, hein. Et donc, qui s'intéresse donc aussi aux félins.
Oui,
et
aux avions aussi.
Alors, aux avions, il a fait restaurer deux Spitfire. Donc, qui sont des avions de combat anglais, hein, qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre. Il en a offert un, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui donne. Il en a offert un à l'Imperial War Museum à Londres. Il a même offert aussi, vient de faire une donation au Louvre, d'un tableau de Ferdinand du XVIIe siècle, qu'il avait acheté en vente privée. Parce qu'il dit d'habitude, moi, quand les musées veulent acheter, je m'efface, c'est au musée de faire leur boulot, etc. Et là, il a acheté ce tableau, et en fait, via un intermédiaire, il ne savait pas que le Louvre, en fait, était intéressé par le tableau. Et après avoir laissé ce tableau pendant plusieurs années au Louvre, il a décidé de le donner aujourd'hui. Donc c'est quand même un cadeau, un petit cadeau d'1 million d'euros, qui pour lui ne présente pas d'ailleurs d'avantages particulièrement fiscaux, comme on pourrait dire, parce qu'il est, je crois qu'il est résident fiscal aux États-Unis. Donc c'est un vrai don de vrai don, comme dirait l'autre. C'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup la France, hein. Thomas Kaplan, il habite en France assez régulièrement. Il a un appartement dans le 7e arrondissement. Et donc, il dit là, c'est un geste que se fait pour ce musée d'abord, le Louvre, qu'on a bien besoin en ce moment. Enfin, en ce moment, il a une très belle collection, ça va. Et qu'il le fait aussi par conviction. Et c'est la même conviction qui l'amène aussi à montrer dans une exposition une trentaine des chefs-d'œuvre de sa collection, dont une dizaine de Rembrandt, c'est quand même pas si mal que ça.
Et oui, nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous donnons du sens avec ce que nous donnons. C'est une citation qui serait, paraît-il, de Churchill et qu'il a fait sienne, finalement.
Oui, qui est une situation assez pratique, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent les gens qui ont de l'argent, quelquefois ils s'ennuient un petit peu. Lui, il a l'air d'être assez occupé, hein, donc à travers ses associations, à travers ses soutiens, la vie animale, etc. Et à travers ce mécénat qu'il fait envers les musées. Il faut savoir que il possède à peu près 200 tableaux, hein. Il y a des Guéry de Doux, il y a des Jan Steen, enfin des maîtres du 17e. Il les prête tout le temps. C'est pas quelqu'un, il a une petite particularité. Quelquefois, les collectionneurs sont ravis quand vous allez chez eux de montrer ce qu'ils ont au mur. Bah, chez lui, au mur, il n'y a rien.
Il y a des photos.
Il y a des photos. Et c'est vrai que ça, moi, ça m'a un peu...
Des photos de ses tableaux.
De ses tableaux. Et donc, il prête énormément. Il prête au Getty, il prête au Metropolitan, il prête au Louvre. Il a prêté à Jacquemart André récemment, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt partageux, quoi.
Et pour notre plus grand plaisir, car nous pourrons donc voir ces tableaux du 22 février au 22 mai au Louvre, avant une tournée mondiale, plus ou moins, de cette exposition.
Absolument, oui, parce que je crois que les tableaux vont être présentés en Chine, vont être présentés à Abu Dhabi, vont revenir en Europe, je crois. Bon, c'est vrai aussi qu'à travers ça, geste généreux, mais geste aussi intelligent, parce que sa collection, évidemment, à travers ses différentes présentations... acquiert une notoriété réelle. Je ne sais pas si vous possédez des Rembrandt, mais si vous en avez un
et
que vous le présentez au Louvre et que le Louvre donne le feu vert pour l'exposer, là, votre Rembrandt, c'est un peu bingo, c'est un bon.
Merci Bernard Géniès, tout cela et bien plus encore dans l'Obs, à retrouver aujourd'hui en kiosque. Des auteurs que vous écoutez. On continue d'explorer l'œuvre de Michel Houellebecq avec l'architecte Clémentin Rachet, 24 ans, auteur d'un livre sur l'architecture chez Michel Houellebecq. Et sa présence à cette table démontre que l'auteur des particules intéresse la jeune génération. Ça tombe bien, c'est pour lui la plus belle des reconnaissances.
La reconnaissance par les prix est une reconnaissance heureuse parce que ça fait plaisir à l'éditeur aussi. Donc l'équipe est heureuse, quoi. Mais il y a beaucoup de reconnaissance. Être dans le Robert, cité comme exemple, c'est une reconnaissance.
Être à l'école.
Être dans un manuel scolaire, c'est une reconnaissance. Être dans... faire l'objet d'une question pour un champion, c'est une reconnaissance, quoi. Faire l'objet de travaux universitaires, c'est une autre forme de reconnaissance. Mais au fond, la vraie reconnaissance la plus forte est celle qui compte... au fond, plus que tout, c'est d'être aimé par des auteurs plus jeunes que vous et de les trouver bons. En fait, finalement, la littérature, ça se passe par cooptation. Et moi, je le sais très bien comme lecteur. Hein, si j'ai lu un tel ou un tel, c'est parce que Baudelaire l'avait aimé, ou il avait été influencé par Baudelaire. Donc, j'ai procédé comme ça, en faisant mon chemin à partir de quelques points de départ. Donc, la vraie reconnaissance, c'est celle-là. Elle vient des auteurs plus jeunes.
Michel Houellebecq, interrogé par Frédéric Taddeï en 2013 sur France Culture. Bonjour Clémentin Rachet.
Bonjour.
Avez-vous envoyé votre livre, même si ce n'est pas de la littérature, à Michel Houellebecq pour qu'il vous trouve bon, vous la jeune génération?
Alors je ne lui ai pas envoyé, mais je sais par source presque sûre qu'il l'a eu entre les mains à un moment donné, parce que j'ai été en relation avec Yann C, qui a aussi écrit un article dans les Cahiers de l'Inde, très beau. Qui m'a écrit et qui m'a dit sur Facebook, donc la jeune génération elle est là aussi.
Alors maintenant vous savez, Facebook c'est pour les vieux.
Je sais.
Vous vous êtes un peu coupé là.
Qui m'a dit, qui m'a juste écrit très bien ce petit essai sur Michel Houellebecq. Et il m'a avoué en fait qu'ils s'étaient rencontrés, je sais plus à quelle occasion, je crois qu'ils se voient souvent tous les deux, et qu'il l'avait vu, que Michel Houellebecq l'avait vu, il s'en était imprégné, il l'avait pris entre les mains. C'est vrai que la couleur orange du livre donne peut-être un peu envie. Il y a sa photo dessus en plus, donc bon.
Ouais.
Et il l'a pris, il l'a dérobé, et il lui a écrit une semaine plus tard qu'il l'avait perdu. Apparemment, il perd beaucoup les choses. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai dit, bah écoutez, moi je vous en envoie deux, un pour vous et un pour lui. Donc je pense qu'il est arrivé juste entre ses mains, ouais, à un moment donné.
Donc vous n'avez pas pu lui envoyer vous-même à son adresse. C'est important l'adresse d'un écrivain quand on parle de la ville. Est-ce que vous la connaissez cette adresse?
Je la connais pas, je sais à peu près, étant donné qu'il a été photographié dans son appartement où ça se situe, mais... Et je sais qu'il y a un Thomas Pitrel, qui est un journaliste pour Vanity Fair, était parti en fait en reconnaissance à un moment donné. Justement, il essayait de le trouver au moment où il s'était installé après ses exils en Irlande et en Espagne. Il s'était réinstallé à Paris. Il s'installait dans le 13e arrondissement. Tout le monde était un peu
étonné.
Comme ça, étonné. Voilà, c'est vrai que c'est assez étonnant pour quelqu'un de sa trempe. Et du coup, il était parti en reconnaissance. Il était allé interroger tous les commerçants du quartier, notamment dans le fameux hyper casino du boulevard Vincent Auriol, en demandant, est-ce que vous savez où habite Houellebecq?
Le fameux, pourquoi?
Le fameux parce que c'est celui qui est omniprésent dans la carte et le territoire, et qui finalement, et il est fameux aussi parce qu'il a donné une interview à un moment donné à l'initiative du maire du 13e arrondissement, dont il est assez proche. Il a donné une interview dans l'hypercasino du boulevard Vincent Auriol. Donc à nouveau, pour un écrivain comme Michel Houellebecq, ça peut paraître un peu étonnant, quoi.
Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il habite dans le ciel, il habite dans une tour, une des tours de cette dalle finalement très célèbre du 13e arrondissement. Ça veut dire quelque chose pour vous qu'il habite dans le ciel?
Ça veut dire quelque chose, ouais. Je pense qu'il y a une double lecture. Si on essaie vraiment d'analyser ça, il y a une sorte de... Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'éditeur dans ce livre. Il y a une seule image, et c'est lui, en fait, photographié cigarette à la main dans sa tour. On voit en dessous ce qu'on a appelé les petites fourmis qui sont en bas comme ça. Et on se disait qu'il y avait une double... Déjà, lui a avoué, je crois, au journal de TF1, à un moment donné... Il a dit, si j'habite dans le 13e, c'est parce que je me sens bien à la lisière de Paris. Je vois, mon appartement donne sur le périphérique et ce qui se passe au-delà, plutôt que de donner sur Saint-Germain-des-Prés. Donc il y a déjà ça, il y a ce côté, ce rapport très, très, comment dire, diffus d'une capitale qui, comme ça, s'élargit et ne regarde plus non plus vers le centre, mais vers sa périphérie. Et il y a aussi, un côté, je pense, on sait qu'il habite haut, donc il habite pas au troisième étage de la tour, quoi. Donc il y a quand même quelque chose comme ça d'un rapport au ciel, et aussi avec quelque chose qui se passe en bas, où lui peut voir le quotidien, le banal des gens qui marchent à ses pieds, quoi.
Il paraît que au-dessus du cinquième étage, on n'a plus les sens qui permettent de nous rattacher au monde sur Terre. Le cinquième étage est, paraît-il, la limite. Lui habite plus haut que le cinquième étage. Est-ce que c'est pour vous une volonté de s'extirper de quelque chose?
Je pense assez clairement. Ouais. Déjà, le fait de vivre haut permet non seulement de profiter d'un paysage, ça c'est clair, mais aussi quelque chose de l'ordre de l'extraction, en effet, d'un monde qu'on essaye peut-être de fuir. Et je pense que si les appartements sont de plus en plus chers dès lors que l'on monte dans les étages, c'est aussi parce que on participe à quelque chose comme ça, à quelque chose de vraiment très objectif sur un monde que l'on peut contempler. Et en même temps, comme si on voulait s'en séparer, quoi, dire que nous, on habite ailleurs. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez clair à analyser là-dedans, ouais, c'est sûr.
Alors vous, Clémentin Rachet, vous vous définissez comme un inconditionnel de Michel Houellebecq ?
Non, pas vraiment. J'aime ses romans. J'ai découvert ses romans quand j'étais à l'école d'architecture.
À Paris-Malaquais,
où une enseignante de sociologie nous avait dit la carte et le territoire étaient en plein boom. Il était sorti quelques mois auparavant. Elle nous disait, oh, vous devriez lire ce bouquin, vous, les jeunes archis. Le père du héros est architecte. Il a une vision comme ça, un peu désenchantée sur le Corbusier.
Enfin, voilà, on peut dire quand même que le père du héros, architecte, passe une vie terrible d'architecte parce qu'il ne fait que travailler. Ouais. Et à la fin, il meurt. C'est à peu près ça, sa vie.
C'est à peu près ça.
Il meurt seul.
Il meurt seul en Suisse.
Riche, mais seul.
Riche, ouais.
Et ça vous fait pas peur, ça, vous, les architectes, les jeunes architectes?
Bah, de travailler beaucoup. C'est vrai qu'on on y est habitué. De mourir, c'est pas encore. On n'y pense pas encore, quoi.
Pas encore habitué, non?
Pas encore habitué. Mais donc, elle nous avait dit comme ça, un peu à la fin d'un cours, vous devriez lire. Donc, j'avais un ami qui avait beaucoup aimé. Donc, j'ai découvert, en fait, assez tardivement son œuvre, avec son dernier roman, en l'occurrence, à l'époque. Et il y avait quelque chose comme ça, assez intuitif, ça m'intéressait non pas parce que son père est architecte, ça, c'est.
C'est quand même un métier qu'il a choisi. Il aurait pu en choisir beaucoup d'autres et il a choisi d'avoir un personnage d'architecte. Bon, cela mis à part.
Il a choisi aussi parce que, et je pense que c'est aussi à mettre en parallèle avec le fait qu'il habite dans le 13e arrondissement, il explique que le père de Jed dans La carte et le territoire regrette les années 60 et les Trente Glorieuses dans cette époque où on construisait énormément, beaucoup, et des rectangles et des carrés. Une sorte de forme géométrique un peu banale et qu'on a l'habitude de reproduire. Et donc, je pense que la figure de l'architecte, elle n'était pas si anecdotique, en fait, mine de rien. Et donc, en fait, je me suis plongé dans ces romans un peu comme ça, parce que ça m'intéressait qu'il y avait une intuition que la ville pouvait être un prétexte pour raconter une sorte de morosité, de banalité que ces personnages incarnaient parfaitement. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans cette lecture, et il y avait quelque chose comme ça de très volontaire, où dès que je voyais quelque chose qui parlait de la ville ou de l'espace, je notais, et je me suis retrouvé comme ça avec une liste énorme de choses à analyser, quoi.
Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est beaucoup l'idée de la médiocrité. Ce qui intéresse Michel Houellebecq dans l'architecture, c'est l'architecture du médiocre. Il ne va pas parler ni de l'architecture classique, il ne va pas parler de Versailles. Il ne va pas non plus forcément parler des grands monuments modernes parisiens. Mais ce qui l'intéresse, c'est les parkings, c'est les supermarchés.
Ouais, c'est une architecture qu'on pourrait décrire comme vraiment dépersonnalisée et vraiment contre le symbole. On n'assiste pas à des architectures institutionnelles, comme vous dites, ou des bâtiments iconiques. C'est davantage un rapport très banal, en fait, très neutre. Qui est d'abord caractérisé dans presque l'intégralité de ses romans par l'espace du bureau, du travail, quelque chose de l'ordre du quotidien, en fait. Que le personnage fuit parce que il n'en peut plus et il se renferme dans son appartement, il s'isole. Il y a quelque chose comme ça, en fait, il y a une sorte de schéma que le personnage houellebecquien suit en permanence. Il fuit l'espace social, l'espace du bureau, pour se renfermer dans son espace domestique qu'il fuit via des réseaux de communication très performants.
Des autoroutes,
des aéroports.
Des aéroports.
Et il en fait l'éloge, en fait, d'une certaine manière. Et le personnage se finit dans des espaces autres, parfois marginaux. L'île est présente dans deux de ses livres. Et donc, il y a ce schéma-là qui met en scène finalement que des espaces du quotidien. Et ces poèmes qu'on a entendus tout à l'heure sont du même acabit, c'est lors du parking, du béton et le supermarché, donc, dont on parlait tout à l'heure du 13e arrondissement. Là, c'est l'espace houellebecquien par excellence, c'est le non-lieu absolu où le personnage n'échange avec la caissière que les derniers mots de son existence médiocre. Donc il y avait un rapport très... Il y avait un parallèle très, très puissant entre la médiocrité d'un personnage et l'espace qui l'arpente.
C'est un samedi. Fin d'après-midi. Je n'ai pas envie de cinéma, de restaurant. Je veux être là, tout simplement. La fête est finie. Je rentre en taxi. Je ne vois pas pourquoi je continue à faire semblant. Dans la grande paix qui précède la naissance, il y a peut-être une nouvelle chance. Et le plaisir sans souffrance, et la joie sans délivrance. Le film du dimanche.
Le film du dimanche, écrit et chanté par Michel Houellebecq sur un arrangement de Jean-Claude Vanier. Michel Houellebecq, dont nous parlons avec l'architecte Clémentin Rachet. Alors, ce qui frappe quand même dans les romans de Michel Houellebecq, on a commencé à le dire, c'est que c'est l'architecture moderne, moderniste, qui va plutôt l'intéresser. Est-ce qu'il n'y a pas là, selon vous, une critique de la rationalisation à l'œuvre dans l'architecture moderniste, de cette idée d'inventer des méthodes de construction à grande échelle? On sait que Michel Houellebecq est quelqu'un qui est peut-être un anti-moderne. Est-ce qu'il y a, dans la manière dont il parle de l'architecture, une illustration de cet anti-modernisme pour vous, Clémentin Rachet?
J'en suis pas certain, parce qu'en fait il habite, on l'a dit il y a quelques minutes, dans une tour moderne en fait, et il ne cesse, dans le 13e arrondissement,
c'est quelque chose d'un peu pervers hein, là-dedans aussi
peut-être, il y a un rapport très très mécanique, très organisé en fait à l'espace et le fonctionnalisme des modernes, cette espèce de rapport très fonctionnel, un appartement où on doit cuisiner, on doit pouvoir cuisiner,
qu'on doit pouvoir construire aussi vite.
Qu'on doit pouvoir construire vite. Et il y a un rapport à la vitesse d'ailleurs qui est assez intéressant dans l'espace qu'il met en scène, parce qu'on parlait justement des aéroports, des trains, et on sent une sorte de lenteur, pardon, à chaque fois qu'il entre dans un aéroport pour finalement rejoindre des villes très rapidement. Et il dit ainsi, je crois que c'est dans la carte et le territoire, que quand il regardait les villes au départ de son aéroport en Irlande, il constatait que certaines villes espagnoles étaient plus proches de lui que Paris, par exemple. Et qu'en fait, EasyJet, d'une certaine manière, refaçonnait la géographie de l'Europe et d'un territoire.
L'aéroport
de Shannon.
Il adore parce que c'est carré. Donc
il adore justement parce que c'est carré. Les modernes, ils aiment bien les carrés aussi. Et donc, en fait, la médiocrité de l'espace, ça exclut pas une sorte de goût trivial pour la monumentalité, en fait, chez Houellebecq. Parce que l'aéroport de Shannon, qui est un des seuls lieux qui est finalement décrit, parce que l'espace n'est pas décrit, en fait, dans son œuvre romanesque, il ne sert que comme un prétexte, comme quelque chose dont il s'empare et que il sait que l'imaginaire collectif se projettera sur un supermarché qu'on a tous, un café banal du 13e arrondissement, qu'on côtoie tous les jours, en fait. Et seuls certains espaces monumentaux, parce que l'aéroport de Shannon, moi je le connais pas, mais j'imagine qu'il l'est. En tout cas, c'est comme ça qu'il le décrit. Il le décrit comme un espace blanc, magnifique, parce que très très large, où on peut en déambuler de manière assez facile. Et donc, il y a une sorte de désincarnation de l'architecture, et en même temps une sublimation comme ça d'espace banal que l'aéroport et le supermarché caractérisent.
Thomas Clair, vous qui vous intéressez à Paris et à l'espace, on le disait en début de cette émission, comment vous le voyez cet espace houellebecquien, la ville chez Michel Houellebecq?
Eh bien, disons qu'il y a effectivement une fascination pour le neutre, pour le banal chez Houellebecq, et donc aussi, comme vous le disiez, un petit goût pervers pour ce fonctionnalisme des années 60, qui quand même pose un problème dans la mesure où c'est souvent un fonctionnalisme de qualité moyenne, finalement. C'est un fonctionnalisme qui a très mal vieilli dans les banlieues populaires, et qui a relativement pas trop mal vieilli, si on pense au 13e ou à Beaugrenelle. Et donc là, il y a quelque chose, finalement, qui pourrait être posé creuser de manière plus, je dirais, plus profonde, c'est la différence sociale entre les pauvres et les riches. C'est-à-dire que le fonctionnalisme, finalement, s'est extrêmement gâté dans les classes populaires, une question qui intéresse peu Houellebecq, puisque Houellebecq est intéressé essentiellement par les classes moyennes. Et donc, il y a une sorte de correspondance, encore une fois chez lui, très, très intéressante, mais aussi un petit peu perverse, entre cette architecture fonctionnaliste moyenne et la vie des personnages qu'il décrit, en faisant quand même un certain déni du social des gens pauvres qui, eux, ont été logés dans des cités dont on voit bien qu'elles n'ont pas tenu leurs promesses.
Oui, mais cette architecture, elle venait aussi d'une utopie. Et peut-être que c'est ça qui intéresse Michel Houellebecq, parce que donner de beaux logements à tout le monde, quasiment à la campagne, hein, c'était le projet quand même en partie de la banlieue, ça venait d'une utopie. Et l'utopie déchue, c'est peut-être aussi quelque chose qui intéresse Michel Houellebecq.
Voilà, c'est là qu'il y a de cette manière perversité. C'est qu'effectivement, c'est une utopie qui quand même ne s'est pas entièrement donné les moyens qualitatifs. Hein, c'est une utopie finalement du quantitatif essentiellement. Et je crois que Houellebecq est fasciné par le quantitatif plus que par le qualitatif.
Clémentin Rachet.
Oui, par la masse en fait. Il y a une sorte de massification extrême qui rompt avec l'isolement des personnages qui ne cessent de finalement de s'isoler davantage au fur et à mesure que le roman avance, de la fameuse masse qui est pourtant représentée par le supermarché, par l'aéroport, qui ne sont que des sortes de non-lieux où les gens passent. En fait. Et c'est cela même qui décrit. Donc, il y a un rapport en effet très médiocre, très moyen, il y a une moyennisation de l'espace en fait chez Michel Houellebecq, qui ne s'intéresse pas vraiment à la banlieue en fait, qui s'intéresse davantage à un Paris qui se meurt, qui se décentralise vers la campagne, vers le rural. Il dit justement dans La carte et le territoire, à un moment donné, après avoir passé un week-end avec Olga, qui est sa compagne du moment, pardon, qu'il sentait qu'à la campagne on pouvait être heureux à un moment donné, il l'a ressenti. Et c'est en revenant vers Paris que les ennuis recommencent, en fait. Et donc, Paris n'échappe pas aux stéréotypes de la ville dense, avec l'inconfort dans la masse et les immuables problèmes que ça peut engrainer pour les classes moyennes.
Et pourtant, il a quitté l'Irlande pour revenir vivre à Paris. Il a quitté la campagne.
Ouais, il disait qu'il en avait marre de parler anglais, donc je sais pas comment l'analyser. Il est revenu à Paris. Il est revenu et il s'installe... Il s'installe dans le 13e arrondissement où finalement des galeries d'art commencent à apparaître, où il y a une sorte peut-être d'avant-gardisme qui arrive et qui peut être récompensé par l'article d'Ariane Chemin dans Le Monde qui est paru.
La série d'articles.
Ouais, où tout d'un coup elle dit cette fameuse tour dont on parlait tout à l'heure, elle l'appelle la tour Houellebecq. Un peu comme la tour Trump, quoi. Sauf que c'est pas en plein milieu de Manhattan, mais c'est dans le 13e arrondissement, justement. Donc on sent aussi, malgré tout ce qu'on vient de dire auparavant, là, qu'il y a une... il tente contre l'histoire parisienne et le symbolisme parisien et contre Saint-Germain-des-Prés, qu'il essaye de s'en extraire, mais qu'il habite quand même à Paris, finalement.
Alors vous, Clément Arraché, vous avez écrit finalement ce livre, hein, qui est tiré de votre mémoire de fin d'études, pour faire de l'architecture autrement. Est-ce que, sur le plan personnel, de travailler sur Michel Houellebecq, sur l'architecture dans la littérature, ça change votre manière de faire de l'architecture au quotidien ?
C'est difficile à dire. Je pense pas. Je pense que c'est deux choses qui sont complémentaires, mais disons que c'est une question qui m'a souvent été posée. Et maintenant, qu'est-ce que ça produit en termes d'architecture, c'est difficile à dire. C'est ce qui est plus facile à analyser, c'est la manière dont les espaces qu'il met en scène, et finalement les réseaux de communication qui m'intéressent beaucoup. Et on le voit dans la construction du Grand Paris aujourd'hui, et ce qu'on construit, c'est des gares, c'est le moyen de s'extraire de Paris, et non plus de le rejoindre finalement. Et donc
D'ouvrir Paris.
D'ouvrir Paris qui n'en peut plus et qui suffoque, en fait, contraint par le boulevard périphérique où Michel Houellebecq habite, en fait. Et donc il y a un rapport, ça questionne la manière dont on peut percevoir la ville plutôt que la manière de faire de l'architecture en tant que telle, quoi.
Et vos profs n'ont pas été étonnés par votre sujet ?
Un petit peu, je crois que ça leur a beaucoup plu, et d'ailleurs, ils ont vraiment alimenté le travail, et je pense que, enfin, heureusement qu'ils étaient là, quoi.
Merci. Merci beaucoup Clémentin Rachet d'être venu nous parler de Michel Houellebecq et la ville. Pour en savoir plus, nos auditeurs peuvent se reporter à votre ouvrage « Topologie au milieu du monde de Michel Houellebecq ». C'est aux éditions B2. La semaine prochaine, une toute autre direction dans la compagnie des auteurs. Nous prenons la direction de la Méditerranée en nous penchant sur l'œuvre de l'auteur du Quatuor d'Alexandrie, Lawrence Durrell. Mais pour l'heure, c'est le moment d'écouter les poésies solaires d'Eugenio de Andrade, lues par Jacques Bonafé.
Bonjour, toujours avec Eugenio de Andrade, le portugais. Mais ce n'est plus matière solaire, c'est un poème blanc sur blanc, paru chez Poésie Gallimard. Maintenant j'habite plus près du soleil. Les amis ne connaissent pas le chemin. C'est bon d'être ainsi à personne, dans les plus hautes branches, frère, du chant exempt de l'oiseau, de passage, reflet d'un reflet, contemporain de n'importe quel regard de surprise. Seulement ce va-et-vient démarrer, ardeur faite d'oubli, douce poussière à fleur de l'écume, et seulement cela. Arbre, arbre, un jour je serai un arbre, avec la maternelle complicité de l'été qu'annoncent les palombes. Un jour j'abandonnerai ses mains dans l'argile encore chaude du silence, je gravirai le ciel. Aux arbres de telles choses sont consenties. J'habiterai alors le regard nu, fatigué du corps, ce désert recommencé dans les eaux, tandis que sur les feuilles le brouillard dépose ses mains humides et le feu. Ludovic Janvier vient à passer par là, dans Bientôt le soleil, livre consacré au peintre Bonnard. Beau, Mistral, hier c'était ensoleillé, avant-hier beau, nuageux, la météo pour signaler ma position à la galaxie tout autour, et qu'elle n'oublie pas. À midi, dans la salle à manger, c'est la lumière qui s'attable. Il faut pouvoir lui faire face. Retour à Eugenio de Andrade. On se demande si c'est pas une fermentation mentale chez lui, plutôt, ce poème. Il n'y a pas d'autre manière d'approcher de ta bouche. Tant de soleil et de mer brûlent pour que tu ne sois pas de neige, corps. Ancré dans l'été, les oiseaux de mer couronnent ton visage de leur vol, musique inachevée que les doigts délivrent. Lumière répandue sur le dos et les hanches, encore plus douce au creux des reins, pour te porter à ma bouche, tant de mers ont brûlé, tant de navires. Autre poème. Tu appuies ton visage sur la mélancolie et tu n'entends même pas le rossignol. Où est-ce l'alouette? Tu peux à peine supporter l'air partagé entre la fidélité que tu dois à la terre de ta mère et au bleu presque blanc où l'oiseau se perd. La musique, donnons-lui ce nom, a toujours été ta blessure, mais aussi, au milieu des dunes, ton exaltation. N'écoute pas le rossignol, ni l'alouette, c'est en toi que toute la musique est oiseau.
Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.